Oui, alors en studio de la très belle visite, deux BDistes, Voro.
Bonjour.
Bonjour Voro. Et aussi Lapierre.
Bonjour.
Bonjour Lapierre. Voro, c'est Vincent Rioux. Et Lapierre, c'est François Lapierre qui se sont déplacés jusqu'à nous pour nous présenter leur BD, L'Agent Double. Avant de parler de votre BD, racontez-vous un petit peu, Voro. Vous êtes Québécois. Je sais que vous avez appris votre métier de BDiste en Belgique.
Oui. Oui.
Vous êtes auteur des séries Tard dans la nuit, l'été 63.
Exact. Vous avez bien fait vos devoirs.
Oui, j'essaie.
Moi, depuis que je suis tout jeune, je rêve de faire de la bande dessinée.
Ah,
à l'époque, il n'y avait pas d'école de bande dessinée au Québec. C'est pour ça que j'ai dû partir étudier en Belgique. Après ça, je suis revenu au Québec et j'ai commencé ma carrière. Mais c'est vraiment une bande dessinée faite par deux petits Québécois pur laine. Ouais.
Et vous dites que vous rêvez de faire de la BD depuis tout petit.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une BD qui a déclenché cette envie-là?
C'est mon personnage préféré, c'était Lucky Luke quand j'étais jeune.
Ah oui?
Ouais, je dirais que je suis rendu très, très loin de tout ça, là. Je suis plus dans la BD adulte que la BD jeunesse, vraiment. Mais c'est certain qu'on vieillit et nos goûts de lecture vieillissent avec nous. Ça fait que l'auteur qui m'a le plus marqué comme jeune adulte, c'était Will Eisner, qui a un peu créé ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique aux États-Unis.
Et puis vous, François Lapierre, avec vous, on pense à Magasin Général.
Mm-hmm.
Et on pense aussi à la Nouvelle-France, les mythes autochtones, qui sont des thèmes qui vous sont chers.
Oui, bien en fait, moi j'ai commencé la bande dessinée en tant qu'auteur, mais par mon univers préféré et graphique, qui est effectivement la Nouvelle-France fantastique et le choc des cultures et des colonies. Puis en général, c'est ce qui m'interpelle le plus quand je fais des BD, donc 1642 aussi qu'on a fait sur la Fondation de Montréal, parallèlement à Magasin Général en tant que coloriste. Ouais.
Pour l'agent double, c'est Voro qui s'est occupé du scénario et Lapierre qui s'est occupé des dessins. Mais vous aussi, vous en êtes mêlé des dessins.
C'est ce qu'on appelle une bande dessinée à quatre mains. On a dessiné tous les deux autant de pages un que l'autre. Moi, j'ai dessiné tout le côté gauche, qui est la vision, la réalité, la caméra extérieure au personnage. Et François a dessiné la vision du personnage qui vit avec la schizophrénie.
Oui, le personnage qui s'appelle Jasmin. Oui. Est-ce que vous vous connaissez depuis longtemps?
Oui.
Ben, depuis qu'on fait de la BD à peu près, on était très peu d'auteurs au début des années 2000, québécois en enfer, qu'on se croisait dans les festivals à Québec.
À chaque année.
À Angoulême, à Montréal.
Non, ben au début c'était plus au Québec, mais qui dit festival BD dit aussi beaucoup d'apéro et tout, donc entre deux séances de dédicace. Puis là, ben, quand on prend une bière, on a le temps de jaser, de discuter, fait qu'on est devenu amis assez instantanément. Ouais. Mais avec quand même 6 heures de route qui nous séparent, donc c'est pas comme si je débarque prendre un café chez lui à chaque fin de semaine. Moi, ça fait longtemps qu'on est amis, ouais.
Ouais.
Alors,
le but de cette bande dessinée-là, pourquoi elle a été créée, c'était ma volonté de vouloir travailler avec François.
Ah oui, qui est donc c'est vous qui avez appelé François.
Oui, parce
absolument.
Qu'à l'époque, François faisait énormément de mises en couleur. Puis je m'ennuyais de le voir dessiner, puis je voulais le forcer un peu à retourner au dessin.
Eh bien, c'est exactement ça. À l'époque, j'avais beaucoup de contrats de coloration. J'avais une famille et tout, là. Donc,
quand on parle de contrats de coloration, il y avait des dessins déjà faits et vous...
Ben moi, en fait, parce que parallèlement à mon métier d'auteur de bande dessinée, je suis un coloriste de luxe pour la France. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grosses séries qui m'approchent, donc Magasin Général, en fait, de gros auteurs qui m'approchent. Avec des séries qui vendent des centaines de milliers d'exemplaires et tout. Donc, je suis très en demande en tant que coloriste, mais c'est sûr que pour les éditeurs français, c'est plus ça, comme ça qu'ils me voyaient. Fait qu'avec Vincent, qui m'a ramené un peu dans le giron du dessin, bien, au fil des années, ensuite, j'ai fait d'autres albums de mon côté. Mais si on remonte à il y a une dizaine d'années pour notre projet, à l'époque, je faisais quasiment juste la coloration pour les grosses séries. Tu sais. C'est sûr que c'est tentant aussi, là, parce que c'est des projets séduisants.
Oui, tout à
c'est
fait,
plus payant
j'imagine.
Aussi, ouais.
Mais en même temps, tout le côté créateur du dessinateur n'est pas mis en
lumière. Non. Là, je suis au service de la série. Je reçois les planches en noir et blanc, puis je mets la couleur dessus.
Et comment vous en êtes venu à créer cette BD ensemble? Paraît-il que c'est le film Joker qui...
Ben non, la BD, moi j'ai écrit le scénario, ça fait plus que 7 ans là, déjà. Et à l'époque, j'ai décidé de travailler avec un personnage qui vit avec la schizophrénie pour pouvoir marier nos deux univers, parce qu'on a deux styles très différents. Puis oui, c'est bien beau de vouloir travailler avec François, mais il y a un style graphique assez flyé, donc je voulais avoir une histoire dans laquelle les deux visions peuvent se marier puis raconter l'histoire.
La vision de Jasmin, quand il prend ses médicaments, il est dans la réalité, entre guillemets, ouais. Et quand il ne les prend pas, il est...
tombe dans le monde de François.
Il hallucine beaucoup, ouais.
C'est ça.
Et vous avez trouvé une façon aussi de bien faire comprendre ces deux aspects avec une proposition graphique. Est-ce que vous voulez élaborer là-dessus?
Ben, c'est un album concept qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est raconté d'une façon différente de ce qu'on a l'habitude de lire. Normalement, quand on ouvre la bande dessinée, qu'on tourne la page, on est confronté toujours à deux pages séparées par l'axe de reliure. C'est comme ça pour toutes les bandes dessinées. Mais moi, je me dis pourquoi personne n'utilise cette fonction-là de raconter qui est accessible seulement en bande dessinée. Au cinéma, en littérature, c'est impossible d'avoir deux univers parallèles sous les yeux en même temps, tout le temps. Et là, de là est venue l'idée du dédoublement de personnalité et puis de raconter avec deux visions en même temps, le même moment, mais avec deux visions très différentes, deux réalités très différentes. Puis l'outil de bande dessinée, l'objet qui est le livre de bande dessinée, est le seul outil qui permet cette narration-là.
Et comment la création, le dessin s'est fait? Est-ce que vous travaillez en simultané, à distance?
Vu qu'on avait beaucoup de projets parallèles, chacun de notre côté, on a glissé la production de l'album, surtout dans la première moitié, entre deux contrats. Donc, des fois, Vincent, s'il y avait deux mois pour faire des planches, il le faisait, mais moi, j'étais occupé ailleurs. Mais en général, c'est Vincent qui commençait ses planches. Moi, je me calais sur ce qu'il faisait pour ensuite faire de mon côté un peu le pendant à ma façon. Mais moi, je suis quelqu'un qui est relativement impatient dans certains trucs. Donc, quand je dessine une planche, je suis incapable d'en faire une autre sans que celle-ci ne soit pas colorée.
Ah, oui.
Donc, je la mettais en couleur immédiatement. Donc, là, rendu là, c'est Vincent qui se calait sur mes couleurs pour faire les siennes. Ouais. Qu'il y ait une cohérence aussi graphique, parce que sinon, ça serait parti dans tous les sens. Là. Donc, il commençait le dessin, je commençais la couleur ensuite sur mes planches, puis il revenait, fait qu'on se complétait comme ça.
C'était presque comme ça à chaque double planche. Ouais. C'était vraiment un jeu de ping-pong. Là.
Moi, ça devait être stimulant.
Ah oui, c'est le fun. À chaque fois que tu reçois une planche de l'autre, c'est comme un cadeau. Là. Tu l'analyses, tu es super heureux, puis tu dis « Ah, il a fait ça, c'est génial! » Puis là, toi, tu essaies de relancer, de repousser un peu tout le temps l'histoire pour donner le maximum que tu peux, parce que tu sais que tu travailles avec un confrère qui dessine aussi, tu sais, c'est hyper stimulant.
Il y avait aussi le scénario était quand même très établi à la base, mais même si on l'aurait travaillé, moi j'avais la liberté de changer un truc, une ligne, ou rajouter des dialogues, un punch humoristique. Mais vu qu'on s'envoyait des planches comme ça, effectivement, il y avait un certain work in progress qui faisait qu'on pouvait aussi changer des trucs en cours de route, ce qui évite le côté juste exécuter des planches parce qu'on a écrit un scénario, puis ensuite, dans mon cas à moi, comme je disais, qui était un peu impatient. T'sais, j'ai l'impression juste d'exécuter ensuite ce qui a déjà été écrit sans... je perds un peu de motivation ou de plaisir à le faire. Tandis que là, en faisant ça comme ça, à chaque fois, c'était comme une surprise aussi.
Ah oui, alors beaucoup de plaisir, si le sujet n'est pas nécessairement rigolo.
Oui. Oui.
Je comprends que la schizophrénie, ça vous a permis de réaliser votre projet de BD graphique, mais c'est quand même un sujet difficile. Oui. On présente la BD comme un thriller psychologique. J'imagine que vous avez fait appel à des experts pour en savoir plus sur la schizophrénie, parce que c'est une maladie... quand on n'a pas de personne autour de soi qui est atteint de cette maladie, c'est quelque chose qui est mystérieux, même qui peut faire très, très peur.
Non, tout à fait. Puis il faut être juste dans le sujet, là, parce que quand on décide de parler d'un sujet comme ça, si on veut être capable de bien parler, d'en rire à certains moments aussi, il faut être très juste, puis il faut se documenter. Moi, pendant toute l'écriture du scénario, j'étais en collaboration avec Santé mentale, le Bas-Saint-Laurent, qui a supervisé...
Pourquoi Bas-Saint-Laurent? Vous venez de Rimouski?
Moi, je viens de Rimouski, oui. Puis l'Association Santé mentale Québec a des filiales un peu partout dans le Québec. Et je les ai approchés dès le départ du projet pour leur dire « C'est ça mon idée, je vais être certain que je ne choquerai pas. » Oui, ça peut choquer si c'est voulu. Je veux utiliser les bons mots et toujours être juste dans le sujet. Mais quand on parle d'un sujet lourd, il faut être capable justement d'en parler de toutes les façons. Je le dis souvent parce que c'est une BD qui reste très accessible. Hein? C'est une BD concept, c'est une BD qui parle d'un sujet lourd, mais il y a des beaux moments, il y a des moments drôles.
Il y a des moments rigolos aussi.
Il y a des moments d'action,
Il
y a toutes sortes de moments dans de bonnes histoires. On passe par toutes les gammes d'émotions. Puis il faut être capable d'en parler de toutes les façons.
Et comment les éditions Paquet ont accueilli votre projet?
Avec un énorme enthousiasme, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui étaient frileux, disaient « Oh, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier, notre clientèle, Il y a beaucoup de gestionnaires aussi là-dedans qui veulent jouer assez avec prudence. Ouais. Mm-hmm. Tandis que Parquet, eux, c'est « Non, wow, c'est génial, c'est le fun, on n'a jamais vraiment vu ça. » Donc, eux, ils ont vraiment embarqué à fond dans le projet et dans la promo en France aussi et tout. Donc, on a été... c'est l'éditeur que ça nous prenait pour aller de l'avant là-dessus.
C'est pour ça qu'on les a choisis, parce qu'à l'époque, les gros éditeurs ne voulaient pas toucher à la santé mentale. Hein. La première fois qu'on leur a présenté le projet, il y a 7 ans, ils nous ont tous dit un nom catégorique. Ah non, on parle pas de ça, on parle de
c'est pas un sujet sexy, entre guillemets.
Non, c'est ça, c'est pas vendeur.
Il y a aussi, entre parenthèses, un certain retard en France sur ces sujets sensibles-là. Ici, on commence à en parler plus. On commence à avoir une ouverture sur beaucoup d'aspects marginaux, entre guillemets, de la société. Mm-hmm. Mais en France, c'est comme ici, il y a une vingtaine d'années, on dirait, là, je généralise un peu.
Oui, mais c'est les vieux pays.
C'est ça, c'est les vieux pays, c'est plus long à bouger.
Ouais. On dirait aussi que la pandémie a accéléré...
oui, absolument.
C'est cette prise de conscience qu'il y avait plein de gens aux prises avec des problèmes de santé mentale.
Vous parliez, mentale,
vous parliez tantôt du film Joker. Ça a été pour nous l'élément déclencheur un peu pour retourner voir les éditeurs, parce que c'était juste avant la pandémie qui est sorti ce film-là. Ça a été le film qui a eu le plus grand succès
avec
cette année-là.
Avec Joaquin Phoenix, extraordinaire.
Puis, c'est l'histoire d'un schizophrène. Quand on regarde ça, c'est carrément ça. Là. C'est un peu la même chose. Mais nous autres, ça faisait déjà 5 ans que notre scénario était écrit avant que ce film-là sorte. Puis là, on est retourner voir les éditeurs pour nous dire « Regardez, c'est exactement ce qu'on veut faire en bande dessinée. C'est le film le plus acclamé de l'année. Vous rendez-vous compte que ça peut réussir. On peut réussir à vendre une bande dessinée, même si ça a un sujet un peu plus lourd là, maintenant. » Puis après ça, la pandémie est arrivée, puis là, tout le monde s'est mis à s'ouvrir puis à parler beaucoup plus ouvertement de leurs problèmes de santé mentaux.
Ouais.
Donc là, on a dit « Comprenez-vous là, qu'on a un beau sujet puis que c'est important d'en parler. » Et là, on a eu beaucoup plus d'ouverture. Mais on sentait quand même chez les plus gros éditeurs un frein, puis ils n'étaient pas certains.
Des réserves,
dans quelle collection on va placer ça. C'est un ovni, hein, François, il se l'est fait dire souvent.
Mais c'est un très bel objet. Hein. Vous dites que dans les magasins, là, il ressort du lot.
Ouais.
Oui, parce qu'il est à cause de son format et aussi de l'illustration.
Ben, le format est relativement standard pour la BD franco-belge française.
C'est plus grand. Mais...
Ben, il est peut-être un peu plus grand. Il y a des formats. Il y a des formats sont un peu plus petits. Effectivement, vous avez raison. Mais je pense que c'est vraiment la. je crois personnellement que c'est vraiment le gros plan du personnage principal avec son regard qui interpelle directement le lecteur potentiel. Et la grosse surface blanche de la couverture. Il y a beaucoup de couleurs dans des pages couvertures en général. Et une à côté de l'autre, à un moment donné, ça devient
une
sorte de pizza, tu sais, tandis que lui, avec son côté épuré et son regard perçant...
On n'est pas dans la pizza.
Non. Puis je pense que le lecteur se sent directement interpellé, parce que même à Angoulême, où ce que là, c'est Angoulême, le Festival de BD d'Angoulême, il y a des milliers de personnes qui passent à chaque jour. Et notre bande dessinée, on la voyait automatiquement, elle se démarquait à notre humble avis, là.
Ouais.
Non, ça a été un bon travail, mais ça a été une collaboration avec l'éditeur. Là,
ben, plus que notre humble avis, parce que ça a été la BD qui a le plus vendu sur le stand Paquet pendant tout Angoulême.
C'est vrai. Puis ça, c'est un avis qui n'est pas humble du tout.
C'est ça.
Mais c'est bien mérité. Et on fait connaissance avec Jasmin. Jasmin, il y a d'autres personnages aussi qui gravitent autour de ce personnage-là. Ouais. Il y en a même un où on pourrait dire qu'il souffre de problèmes mentaux, le Eric.
Oui,
Eric,
effectivement,
qui est son frère à Jasmin.
Effectivement, parce que l'histoire est un peu lourde par moment, puis c'est pas de la faute à Jasmin, c'est plus de la faute de son frère. Hein?
Mm-hmm. Qui est jaloux, qui est violent.
Oui. Faut pas raconter la fin de l'histoire,
non.
Souvent les gens disent « Ah, il y a des moments, c'est assez intense. » Puis oui, mais ce n'est pas de la faute de l'homme qui vit avec la schizophrénie, c'est plus la faute de son frère. Qui est un peu tanné de s'occuper de c'est son aidant naturel, mais il est un peu à bout de ressources, puis il est tanné de s'occuper de son jeune frère qui a des problèmes depuis des années et des années. Ouais.
En 2-3 lignes, comment vous vous présentez, comment vous racontez l'histoire de l'agent double?
Moi, je dis que c'est un bon thriller, tout simplement. Ça est très accessible. C'est l'histoire d'un homme qui pense que son frère va être tué, qui est pris dans une histoire de triangle amoureux et qui va être tué. Et il part en enquête, il va virer la ville à l'envers pour deviner, trouver, prouver ses idées. Et on joue avec le lecteur pendant toute l'histoire pour montrer si Jasmin, peut-être que c'est lui qui a raison, après tout. On ne le sait pas, là, jusqu'à la fin, on joue avec ça.
Qu'est-ce que la réalité?
Ouais.
Est-ce qu'il y aura d'autres BD avec Jasmin?
On ne sait pas, mais avec Voro, on espère.
On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais, c'est vraiment one shot. C'est une histoire complète. Nous autres, on n'avait pas l'intention de faire une suite ou quoi que ce soit. Ça serait très facile d'en faire une parce que c'est un homme qui passe un moment, un mauvais moment, et il va en avoir d'autres dans sa vie. Il y en a eu d'autres avant. Ça serait facile de retourner un peu sur sa jeunesse, de reparler un peu de la vie de Jasmin. On laisse la porte ouverte. On va voir. Ça va dépendre de l'accueil du public.
Jusqu'à maintenant, l'accueil est très, très bon. Vraiment, vous avez eu des commentaires. Il y a un médecin, entre autres, qui vous a envoyé un long courriel avec que des éloges.
Oui, 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 tout à fait.
C'est dithyrambique, oui.
Dithyrambique, oui. Et j'espère que ce sera dithyrambique ce soir, parce que le lancement à Montréal se fait à Planète BD, c'est sur la rue Saint-Denis.
Oui, exactement.
Et il y a eu d'autres lancements qui ont été faits, au moins un.
Ce soir, c'est en 5 à 7. À partir de 5 heures, on dit 5 à 7.
Est-ce que c'est ouvert au public?
Oui, à tous.
Ah, c'est merveilleux, c'est
sans
gratuit.
Réservation, oui, effectivement, il y a un vin d'honneur. Ça va être une belle soirée.
Et il y a aussi le Salon du Livre de Québec qui va vous accueillir. Oui. Le Salon du Livre se déroule du 12 au 16 avril et vous y serez le 16.
Oui, effectivement.
En séance de dédicace.
Oui.
Et c'est parti pour vous. Là. Vous avez parlé tantôt du Festival d'Angoulême, une nomination peut-être?
C'est plus que parti parce que là, on achève un peu la tournée, la grosse tournée, parce qu'on a fait le tour de la France, de la Suisse. Là, on est en train de faire le Québec. Après Salon du Livre de Québec, là, on va avoir droit à une petite pause. Là.
Ah, ouais, oui, oui.
Ouais. Donc, oui, mais on va quand même passer l'année pas mal.
Oui.
Le Festival de Bande dessinée de Montréal. Oui. Ensuite, il y a celui de Prévost. Il y a le Salon du Livre de Montréal. Peut-être Gatineau. Peut-être Rimouski aussi. Ouais.
On a une belle grosse expo déjà à Québec qui est disponible. On peut la visiter dès maintenant à la bibliothèque du Vieux-Québec. Puis une expo sur l'agent double.
Ah oui?
Ouais, sur notre travail puis les planches. Ouais,
à Québec.
En format géant, oui.
Alors, c'est parti pour l'agent double depuis quelques mois. Ça me fait, c'est comme un privilège pour moi de vous recevoir. C'est une BD qui est marquante, ça c'est sûr. Oui, c'est du très très beau travail et c'est bouleversant. Une BD qui s'intitule L'agent double par Voro et Lapierre aux éditions Paquet, maintenant disponible depuis le 22
partout.
Mars.
Absolument.
J'ai pas besoin de vous dire bon succès, c'est déjà dans la poche. Merci d'être passé et bonne continuation, au plaisir
Merci.
De vous retrouver.
Merci à vous.